ami et camarade Stanislas Zaïchimier.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Émission spéciale à Dakar pour débattre ensemble du climat politique qui prévaut au Sénégal à 2 mois des élections locales. Climat tendu, on a eu un aperçu tout à l'heure en première partie d'émission avec nos invités que je vous représente. Abdou Karim Fofana, ministre auprès du président de la République, chargé du suivi du PSE, candidat tête de liste Benobok Yakar à Dakar, commune.fan.e et amitié. À nos côtés également Zarayan Thiam, ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes également candidate à Dakar dans la commune SICAP Liberté. Babacar Diop, candidat à Thiès pour la coalition de l'opposition Yewi Askanoui et Papsar, candidat tête de liste à Ngoy dans le département de Bambay pour l'opposition également et pour la coalition Wallou-Sénégal. Je vous propose de repasser au standard immédiatement. On n'a eu que 3 auditeurs en première partie d'émission, donc des réponses plus courtes peut-être si possible, évidemment. Madame et messieurs, bonjour Ibrahim.
Oui, bonjour Juan et bienvenue à Dakar.
Merci de nous accueillir aussi chaleureusement. Vous êtes vous-même dans la capitale sénégalaise. Quel regard portez-vous sur la pré-campagne ?
Bon, je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de Stanislas, de Jean-Hélène et de Jean-Karim Fall et tant d'autres, ces porteurs de paix, ces grands messieurs qui ont décrit la paix et la sécurité. Et je voudrais vraiment leur rendre hommage.
Merci.
Mais j'interpelle
infiniment
aussi ceux qui sont sur le plateau. Je pense que cette pré-campagne, elle doit se faire sereinement. C'est un problème, c'est un débat d'idées. Moi, je suis à la SICAP Amitié, donc j'habite le quartier où M. le ministre Karim Fofana se présente. Et je suis face à la commune de M. Barthélémy. Donc voilà, je suis entre les deux, oui, les deux quartiers. Donc je vois le climat qui se passe. En tout cas, nous, au niveau de la population, c'est un climat serein. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des individus qui pensent que le Sénégal leur appartient et qu'ils peuvent imposer la violence. La violence n'est l'apanage de personne et personne n'a le monopole de la violence. Il faudrait que dans une situation, dans un Sénégal aussi serein que celui-là, où nous sommes le point de mire de l'Afrique de l'Ouest, c'est le seul côté où il n'y a pas ce problème. Il ne faut pas maintenant que des individus, pour des problèmes personnels, essayent de nous imposer la violence. Ça ne passera pas, parce que
excusez-moi. Ibrahim, j'entends bien, je voudrais que le docteur Boubacar Diop de la coalition Yewi Askanoui vous réponde. On a appris que l'opposant Ousmane Sonko, qui est membre donc de votre coalition, rejette de signer la charte de la non-violence posée sur la table par les religieux.
Oui, vous savez, Juan, il faut savoir que la paix dont on parle est la conséquence de la liberté. Si les institutions sont menacées, si les libertés sont menacées, si les droits fondamentaux sont menacés, peut-on parler de paix ?
Mais en quoi la liberté de votre coalition est-elle menacée aujourd'hui ?
Vous avez vu comment la justice a été instrumentalisée dans ce pays pour emprisonner M. Khalifa Sall, Karim Wade, Ousmane Sonko, aujourd'hui Barthélémy Diaz, et personne ne dit rien. Je pense que c'est un droit fondamental.
Mais refuser de signer la charte, c'est d'une certaine façon, excusez-moi, appeler à la violence.
Non, je pense qu'il faudra le comprendre d'une autre manière. Non, je pense que M. Ousmane Sonko veut mettre le doigt sur cette violence subie par les acteurs politiques, par les opposants, et simplement par un ministre de l'Intérieur qui veut plaire à M. Macky Sall et ce ministre de l'Intérieur. Je pense qu'il faut lui parler. Depuis qu'il est là, c'est lui qui a produit aujourd'hui ce spectacle macabre d'arrogance et de cynisme, et personne n'en parle.
Monsieur le ministre, Abdou Karim Fofana vous répond.
Oui, non, mais je pense que c'est habituel. Quand on parle de violence, on ne peut pas, dans un État ou dans un pays où les 3 éléments constitutifs de la démocratie sont là, on peut s'exprimer. La preuve, on est dans un plateau, chacun dit ce qu'il veut. Il y a l'expression électorale, vous pouvez aller aux élections. Il y a les voies de recours, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous êtes insatisfait d'une décision administrative ou une décision de justice, vous interjetez appel. On vous donne raison ou on ne vous donne pas raison. Mais là où je veux vraiment attirer l'attention, Il y a trois événements qui se sont passés dans le monde en 2021. L'attaque du Capitole, l'attaque du Bundestag, la journée du 8 mars au Sénégal. Qu'est-ce qu'ont en commun ces trois événements? C'est parce qu'il y a des opposants ou des personnes qui ne croient pas en la démocratie, qui ne croient pas en la liberté d'expression et qui pensent que par la rue et par la violence, vous pouvez changer le cours des choses, vous pouvez transformer le vote des citoyens parce que vous pensez que voilà, la violence règle tout. Donc notre démocratie,
mais
on tente aussi, de la changer.
Excusez-moi, monsieur le ministre, est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de provocation dans le camp présidentiel? Lorsque Macky Sall, il y a quelques jours, était à Paris auprès de ses militants et la diaspora, il dit « Moi, personne ne m'intimidera ».
Mais c'est la réalité, parce que le président Macky Sall, c'est le président...
Il n'y a pas de la provocation, est-ce que vous le provoquez pas également?
C'est une réaction, pourquoi? Le président de la République est le garant de notre République. S'il y a des gens qui attaquent les fondements de la République, qui attaquent les valeurs républicaines, mais il a raison de dire que notre République ne peut pas être intimidée. Notre République ne peut pas se donner, notre ville, nos villes, nos campagnes ne peut pas se donner à ceux qui bandent des muscles et à ceux qui invectivent. C'est par des élections, c'est par le débat d'idées que les choses se font au Sénégal. C'est ça la démocratie.
Nos deux autres invités vont pouvoir évidemment réagir. Je leur donne la parole dans un instant. Mais d'abord, Mokhtar, au standard. Bonjour Mokhtar.
Bonjour Juan.
Comment allez-vous ?
Je vais bien, vous.
Très bien, merci infiniment. Vous souhaitiez nous interpeller, vous, sur le rôle que peut jouer la jeunesse dans ces élections locales.
Oui, mais tout d'abord, permettez-moi de saluer ceux qui sont sur le plateau, nos invités, nos ministres, et surtout M. Diop et Sarr.
Tout le monde vous écoute.
Voilà, allez-y, effectivement, notre pensée à Daïchimi. Merci. En fait, nous, ce que nous voulons, c'est une élection, des élections qui seront inclusives, c'est-à-dire qui vont prendre en compte toutes les couches sociales. Et ce que nous avons constaté en un certain moment, c'est que il y a une part qui a été délaissée, c'est-à-dire la jeunesse, alors qu'elle est la clé de cette élection. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce que le pouvoir a fait pour essayer de maximiser la participation de cette jeunesse? Parce qu'on sait qu'en un certain moment, il l'accuse d'être trop du côté de l'opposition. Et très sincèrement, moi, je croyais que j'aimerais bien que nos invités qui sont surtout du côté du pouvoir nous disent qu'est-ce qu'ils ont fait réellement pour permettre à la jeunesse de participer activement.
Que la jeunesse se sente impliquée dans ces élections, certes locales, voilà. Mais aux enjeux nationaux, on le comprend bien depuis le début de l'émission. Madame la ministre Zaraïane Thiam, qu'avez-vous fait dans vos rangs de la majorité pour mobiliser la jeunesse, déjà pour qu'elle s'inscrive sur les listes électorales?
Mais oui, vous savez, je me disais, à moins que je ne sois vieille, je pense que je suis vraiment l'exemple type pour montrer que la jeunesse est au cœur de ce que nous faisons.
Oui, mais je
de manière globale.
Je pense que notre auditeur parlait notamment de cette jeunesse qui a manifesté dans les rues de Dakar en mars dernier.
De manière globale, vous ne pouvez pas avoir plus de la moitié de votre population jeune et vous ne les prenez pas en compte dans ce que vous faites, notamment en confectionnant des listes pour aller à des élections territoriales qui sont des élections de proximité. Donc, il faut qu'à la base, que les populations elles-mêmes, à la base, puissent d'abord s'intéresser à ce qui se fait pour qu'elles puissent participer aux élections. Et donc, ce que la majorité a fait, c'est que la majorité a investi plus de 30% de jeunes sur ces listes. Déjà, c'est un premier pas. L'autre pas également, c'est de donner des responsabilité. Il y a plusieurs listes qui sont dirigées.
Mais vous pensez que la jeunesse sénégalaise, celle qui était dans les rues de Dakar en mars dernier, se reconnaît forcément dans ces listes, dans ces candidats certes jeunes?
Oui, mais la jeunesse qui était dans les rues, c'est une jeunesse qui est sortie, je ne dirais pas d'elle-même, parce qu'on leur a créé les conditions de sortir. Et ce qu'il y a lieu de retenir durant cette période-là, c'est que cette jeunesse qui était dans les rues a attiré l'attention du président qui les a reçus, qui a discuté avec elle et qui a mis en place un programme de 450 milliards pour prendre en charge justement les urgences de l'heure.
Pape Sarr, de l'opposition, les manifestants de mars dernier vont certainement voter dans deux mois?
Oui, mais c'est difficile de mesurer l'activité de la jeunesse à l'activité de manifestants. Il faut bien que le scrutin se déroule normalement pour qu'on puisse savoir quel est le choix de la jeunesse qui constitue l'écrasante majorité du pays. Je voudrais dire sur la question de la violence que notre coalition, la grande coalition Wallou-Sénégal, est constituée d'organisations politiques qui ont de l'expérience. Nous avons atteint une maturité qui nous fait savoir aujourd'hui qu'on ne peut pas construire un pays avec la violence.
Donc ça veut dire que Wallou-Sénégal signera la charte contre la violence.
Je n'ai pas encore vu la charte, mais nous sommes contre toutes les formes de violence.
Donc vous la signerez si vous êtes contre la violence.
Administrative, institutionnelle ou de la rue. La politique, c'est du sérieux. Il s'agit du présent et de l'avenir d'un pays. Je l'ai dit au début de mon propos, il s'agit du développement de nos collectivités territoriales. C'est ça qui doit nous mobiliser. Et je crois que le moment est venu, les religions ont commencé, pour que tous les acteurs prennent la pleine mesure qu'en faisant basculer notre pays dans la violence, mais nous ne réglons aucun problème pour ce pays.
Bon, en tout cas, il y a certains dans l'opposition qui refusent de signer cette charte de la non-violence. On en parlait il y a quelques instants. On repasse au standard. Il nous reste encore 10 minutes. 33 9 693 693 70. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Juan et bonjour à tous vos invités.
Vous êtes à Dakar et vous avez des reproches à l'endroit de l'opposition.
Oui, mais bien sûr, parce que bon, l'opposition a adopté ce que j'appelle la politique du dragon mythologique, c'est-à-dire ses membres doivent cracher du feu, créer des incendies pour se maintenir dans la scène politique. Bon, maintenant, pour prétendre gérer un pays ou un département, mais il faut au préalable être un homme ou bien une femme d'État, mais c'est-à-dire avoir la capacité d'aller parfois au-delà des divisions partisanes pour privilégier l'intérêt commun. Bon, maintenant, l'opposition tire en permanence sur les institutions de la République. Ils disent que la justice et les forces de l'ordre et de sécurité sont les bras répressifs du président Sall, mais eux, ils critiquent tout le temps, mais jusque-là, ils n'ont pas encore fait de propositions concrètes pour démontrer ou bien pour montrer aux Sénégalais comment ils vont régler ce problème si par miracle, ils arrivent au pouvoir. Bon, mais comment des gens qui...
Excusez-moi, Abdoulaye, vous acceptez ces critiques, Babacar Diop ?
Non, il faut dire que la coalition Yewi-Askanouy est une coalition pro-démocratique.
Mais qui refuse de signer une charte contre la violence.
Nous avons refusé.
C'est tout de même paradoxal.
Non, ce n'est pas paradoxal. La violence que nous subissons, vous en parlez ? Les opposants qui sont emprisonnés, les primo-votants à qui on empêche de voter, un potentiel de 500 000 électeurs, parce qu'ils sont simplement jeunes.
Et pourquoi
parce
les, qu'on empêche, a pensé pourquoi que les empêche-t-on de voter les primo-votants?
Oui, je parlais tout à l'heure de la politisation de l'administration.
Oui.
Les goulots d'étranglement posés pour empêcher ces jeunes-là de voter, personne n'en parle. Tous ces opposants, les libertés de presse qui sont menacées, les libertés de manifestation qui sont menacées, je pense que nous sommes pour la démocratie, nous sommes pour la paix, nous sommes pour la stabilité, mais aussi nous sommes pour la justice dans ce pays.
Monsieur le ministre.
Oui. Moi, je suis toujours étonné quand j'échange avec les gens de l'opposition et surtout nos amis de Yewi-Askanouy, c'est-à-dire il y a la mythologie du dragon de feu, mais il y a la mythologie aussi de la démocratie digitale. On pense que ce qui se passe dans les réseaux sociaux est la réalité du pays réel, alors qu'on l'a vu durant la présidentielle. Le fichier électoral a bougé de plus d'un million de nouveaux électeurs. Ils nous ont dit partout que les primo-votants votaient pour les... Et ils sont arrivés, ils ont eu... moins de 2 Sénégalais sur 10 qui leur faisaient confiance. Donc notre démocratie, c'est pas seulement les réseaux sociaux, c'est pas seulement les appels, les lives sur Facebook, c'est une réalité. Moi, je suis toujours étonné. En tant que ministre en charge du suivi du PSE, je vois les chiffres passer tous les jours. Comment l'agriculture sénégalaise a évolué.
PSE, plan Sénégal émergent.
Comment les prestations sociales sont fournies aux populations au plus profond du Sénégal et... Souvent, on touche du doigt pourquoi nos résultats électoraux sont toujours en faveur du président Macky Sall.
Donc il n'y aura pas de vote sanction lors de ces élections.
Mais c'est difficile qu'il y ait. On nous l'a promis à la présidentielle quand on est arrivé.
Oui, et je rappelle que le président Macky Sall a été élu dès le premier tour. Hein.
Oui,
ça a été un coup KO.
Mais comme je vous dis, après...
On repasse au standard rapidement.
Oui, après, il faut être bon joueur. La démocratie, il faut en vouloir. Ce n'est pas seulement le fait de s'exprimer, d'insulter. C'est aussi aller voir les électeurs, discuter avec eux. On prend le cas de Dakar, Barthélémy Diaz, bander les muscles, insulter. Et sans programme. Comment on peut construire une démocratie, un développement sur ces faits-là ?
Dakar sera le principal enjeu pour dire clairement les choses, de cette élection sénégalaise.
Alors, attendez, grandes villes.
Les grandes villes. Mais enfin, on sait que.
Dakar, Thiès, Saint-Louis,
Kaolack.
Ouais, mais enfin, les opposants, vous seriez
c'est
bien.
C'est la beauté des élections.
Je m'adresse aux opposants. Vous...
Il y a 1000 enjeux. 1557 oui. Peut-être enjeux. 601. 601
mais en même temps, vous savez. On ne va pas se voiler la face, excusez-moi, madame la ministre, monsieur le ministre et messieurs les opposants. Celui qui gagne Dakar. Quand même, a déjà une bonne perspective pour les prochaines élections.
Oui, mais ça n'a jamais été gage, par exemple, d'aller au présidentiel. La preuve, l'opposition gagne depuis 2009 Dakar, et pourtant à la présidentielle, l'opposition voilà, a une autre réalité. Donc, ce qu'on en tire, c'est que l'électorat, les citoyens sénégalais, savent distinguer les élections. À la présidentielle, ils peuvent préférer ceci, au local, cela. Et puis,
allez,
voilà,
on peut pas les manipuler. On repasse au standard. Ma remarque n'était donc pas pertinente. Bonjour Alpha.
Allô ? Oui ?
Oui, bonjour Alpha. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Ah, bonjour Juan. Bonjour tous ces gens que vous avez invités. Mon impression, c'est que la coalition au pouvoir, s'entend la situation défavorable, essaie pour gagner les élections, essaie d'affaiblir la position au maximum. Et pour le faire, elle recourt à des manœuvres telles que le redécoupage administratif de Dakar survenu il y a juste quelques mois, en passant par le rejet massif et inédit des listes présentées par l'opposition, jusqu'à la tentative d'élimination de Barthélémy Diaz, justement avec la remise en scène de son procès. Barthélémy Diaz, justement, dont vous avez parlé, et dont la cérémonie d'investiture a montré à souhait que l'opposition semble peut-être plus sûre, plus sereine, hein,
la cérémonie d'investiture a eu lieu effectivement hier dans le courant de l'après-midi à Dakar, hein, concernant Barthélémy Diaz. Monsieur le ministre, rejet massif des listes de l'opposition, je vous ai vu vous agiter.
Oui, non mais une démocratie, c'est la liberté d'expression, c'est des élections libres et transparentes, mais aussi c'est des voies de recours.
Il y a eu...
Monsieur Babacar Diop, ici, représentant de Yewi Askanui, sait ce qui s'est passé dans leur coalition. Oui. Jusqu'à la veille, le 2 novembre, ils ne s'entendaient pas sur les têtes de liste. Donc, ils n'ont pas eu le temps de former, de lire les guides fournis par le ministère de l'Intérieur.
Diop, vrai ou faux ?
Donc, ces jeux politiciens ont fait qu'ils n'ont pas pu déposer leur liste.
Oui. C'est des contre-vérités flagrantes.
Si vous avez, j'ai donné tout de suite l'exemple à Madame le ministre. Dans ma commune, la liste... Il y a eu Askanui qui est déposé au même moment où je dépose dans le bureau du sous-préfet, était incomplète, et le préfet leur a prêté l'ordinateur pour qu'ils puissent modifier leur liste. C'est une collaboration, c'est une
assistance Diop, vous répond,
de l'administration territoriale.
Deux minutes, un petit tour de table rapidement.
Je réponds, parce que comment pouvez-vous, vous avez vous-même constaté que seule l'opposition a eu des problèmes.
Parce que le parti au pouvoir est bien préparé.
Aucune liste de la coalition au pouvoir n'a été rejetée. Aucune liste. Les listes qui ont été rejetées, c'est simplement les listes de l'opposition.
Mais vous avez pu faire des recours.
Voilà.
Et au final,
nous avons gagné 70% des recours que nous avons déposés au niveau des cours d'appel.
Et des recours gagnés sur des questions de forme et non pas sur des questions de fond. Le juge a considéré que la manière de notifier des préfets ou des sous-préfets n'était pas conforme, mais pas qu'ils ont tort.
Monsieur Diop,
je termine simplement sur l'enjeu de ce scrutin. Pour moi, l'enjeu principal, c'est un référendum sur le troisième mandat. Le 23 janvier est un exercice de réécriture et de clarification de notre constitution.
D'accord, donc vous faites des élections locales,
les enjeux,
un référendum.
L'accès à l'eau,
monsieur
l'accès
le ministre,
à
s'il vous plaît, laissez parler votre...
sur le troisième madame mandat, gagnez votre commune d'abord. Ensuite, vous parlerez de troisième
un
mandat.
Un mot de conclusion, madame
mais
la ministre.
Sur le redécoupage, il n'y a pas eu de redécoupage. Il y a une nouvelle création et des rectificatifs dans le cadre de cette commune-là. Maintenant, le rejet des listes, c'est la conséquence de l'immaturité des acteurs. Et surtout que ce n'est pas toute l'opposition qui a vu ces listes rejetées. C'est uniquement le Yewi Askan.
Bon, de toutes les façons, monsieur Papsar, je suis désolé, je ne peux pas vous donner la parole. On va être coupé dans 15 secondes. Je voudrais vraiment tous vous remercier d'avoir été avec nous malgré les embouteillages. Monsieur le ministre et madame la ministre, vous avez pu nous rejoindre. On sera de nouveau à Dakar demain et on parlera de la diversité linguistique en Afrique. Bonne journée.
Banque Atlantique, présente au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.